Xavier Baron, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Le Liban, une exception menacée. En quoi le Liban, qui a donc fêté son centenaire en 2020, a-t-il fait figure d'exception dans la région ?
Dans cette région, le Liban a d'abord manifesté ses capacités démocratiques par son mode de gouvernance. C'est un pays où il y a des élections, où le régime est parlementaire, où il y a une coexistence qui a été établie entre toutes les communautés, et sont 18 au Liban, qui sont associées à l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'imposition d'une communauté sur les autres. La Constitution prévoit même d'empêcher l'hégémonie d'une communauté sur les autres. C'est un pays où il n'y a pas eu de coup d'État.
Il y a eu une guerre civile, mais pas de coup d'État.
Il y a eu une guerre civile, mais il n'y a pas eu de coup d'État, c'est-à-dire que l'armée est en retrait dans le pays. Il n'y a pas de religion d'État, même si effectivement les principaux dirigeants appartiennent à certaines communautés. Dans la Constitution, il n'est pas écrit que le président de la République doit avoir telle religion, comme dans beaucoup de pays de la région. Il y a une grande liberté d'expression. La presse a toujours été extrêmement diverse, variée, et même aujourd'hui, les critiques du gouvernement se trouvent dans toute la presse. Même s'il y a eu quelques entorses sur la liberté d'expression au cours des derniers mois, donc il y a la liberté de la presse, il y a une liberté culturelle très grande, une grande liberté de création artistique, et le Liban a toujours été un exemple dans la région par sa capacité et par son effervescence culturelle.
Alors pourquoi cette exception est-elle menacée aujourd'hui ?
Il y a d'abord des événements circonstanciels d'abord qui sont importants et qu'il faut souligner. C'est qu'il y a le Covid au Liban comme un peu partout dans le monde et qui est en train de encore plus d'appauvrir et de rendre plus difficile la vie, créer du chômage, ainsi de suite. Et puis il y a eu la dramatique explosion du 4 août dans le port de Beyrouth, qui a détruit une partie de Beyrouth, qui a créé des dizaines de milliers de sans-abri, qui a fait près de 200 morts, des milliers de blessés.
Et donc le Covid, cette explosion, mais aussi sur une économie qui est totalement en panne.
Sur une économie et sur un système politique qui est usé. Parce que ce système politique libanais a l'avantage d'être consensuel, mais il l'est à l'extrême. C'est-à-dire qu'il est impossible de prendre une décision si tout le monde n'est pas d'accord. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus de contre-proposition, ce qui est pourtant indispensable dans un régime démocratique. Et donc c'est en permanence la recherche d'une solution qui agréera à tout le monde. Alors, ce consensus donc a fini par signifier que toutes les parties doivent s'entendre pour se partager les avantages du pouvoir, chacun cherchant à avoir sa part. Alors là on aborde le problème communautaire, un régime communautaire qui existe depuis deux siècles maintenant, c'est pas récent. Il a fonctionné pendant longtemps, mais depuis la fin de la guerre civile, c'est-à-dire en 1990, la classe politique a changé. C'est-à-dire que beaucoup de chefs de milice et de chefs de guerre sont venus au pouvoir. Et il y a une classe politique depuis qui cherche non plus à trouver des solutions qui permettraient de relever le pays, mais à se tirer bénéfice de la situation politique.
Et c'est ce que dénonçaient les manifestants en 2019, quoi, la corruption de cette classe politique.
Alors, la corruption est devenue un problème majeur au Liban, ce qui évidemment vide les caisses de l'État et explique en partie la dette du pays. Mais l'année dernière, en 2019, une partie de la population, parce que là encore, il faut modérer les choses, mais une grande partie de la population est descendue dans la rue, en tous les cas les éléments les plus actifs et les plus jeunes, parce qu'ils n'en pouvaient plus de cette situation avec une classe politique qui sert d'abord ses intérêts avant de servir les citoyens, et qui ne prenait aucune décision et ne réglait aucun des problèmes, c'est-à-dire par exemple le problème de l'électricité au Liban, où du fait de contrats obscurs et bizarres, l'électricité du Liban est endettée au niveau de 30 milliards de dollars, alors que les Libanais n'ont pas d'électricité et qu'ils doivent avoir recours à des générateurs de quartier qu'ils doivent payer en plus, bien sûr. Il n'y a pas d'eau non plus, alors que le Liban est un des pays les plus arrosés du Moyen-Orient. Il y a bien sûr la crise des ordures, ou là encore avec des contrats qui n'étaient pas soumis au contrôle public, des sociétés ont profité au maximum de ces contrats très juteux. Et les ordures n'ont pas été ramassées, les ordures s'en passent.
Alors on voit gestion des ordures, eau, électricité, on voit bien que les services publics sont dans l'incapacité de fournir aux Libanais les besoins en fait de première nécessité. Vous parliez tout à l'heure du système multiconfessionnel, ce pacte fondateur, il est à bout de souffle. Comment est-ce que ce système pourrait évoluer?
Alors ça, c'est très très difficile à imaginer. Parce que au Liban, l'État repose sur le communautarisme. Donc supprimer le communautarisme, c'est supprimer l'État, en quelque sorte, l'État tel qu'il existe. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est l'affaire d'une génération, il faut bien avoir conscience de ça. Mais il est possible de faire évoluer ce communautarisme. D'abord, il y a eu des périodes assez longues sous le communautarisme, quand il n'y avait pas la corruption qu'il y a aujourd'hui. Quand vous avez un président comme Fouad Chehab dans les années 1950, et qui gouvernait, il y avait le communautarisme. Mais c'est un État totalement intègre.
C'est un nom qui revient à plusieurs reprises dans votre livre, Fouad Chehab.
Et c'était quelqu'un qui,
vis-à-vis de la classe politique,
voulait faire passer l'intérêt commun avant les intérêts personnels.
Oui, il avait perçu les fragilités de l'économie du Liban.
Il a voulu développer l'agriculture, ce qui est une politique qui était totalement oubliée depuis.
Oui, parce que le constat actuellement, c'est que l'économie libanaise est totalement déséquilibrée avec un secteur tertiaire très important et un secteur industriel et agricole en manque de développement.
Oui, le secteur tertiaire a toujours été très fort au Liban, puisqu'on l'appelait même, après l'indépendance, la République marchande. Il était fait, mais il y a une question d'équilibre. Et depuis 30 ans, notamment, l'agriculture et l'industrie ont été délaissées. Alors, on a beaucoup parlé de la reconstruction de Beyrouth après la guerre, mais on oublie de dire que rien n'a été fait pour l'agriculture et pour l'industrie. Donc, c'était au détriment de ces secteurs productifs. Donc, aujourd'hui, les Libanais en payent le prix.
Et donc, en 2020, pour la première fois dans l'histoire du pays, il y a donc eu une cessation de paiement. On parlait tout à l'heure des différentes confessions. Vous évoquiez les chiites libanais. Alors, il est vrai qu'il n'est pas possible de parler de l'évolution possible future du Liban sans évoquer le rôle du Hezbollah, qui a à la fois un rôle politique et un rôle militaire. Quel risque fait courir au pays le Hezbollah, que ce soit en interne ou en externe, avec sa proximité avec l'Iran ou ses relations conflictuelles avec l'Arabie Saoudite et Israël?
Ça, c'est un gros problème pour le Liban. Le Hezbollah a un rôle considérable, surtout peut-être un rôle de blocage. Étant donné les institutions qui ont été révisées lors d'un accord qui a eu lieu à Taïf en 89, toute décision doit être prise aux deux tiers. C'est-à-dire qu'un tiers peut s'y opposer et bloquer tout. Le Hezbollah joue là-dessus. On le voit aujourd'hui avec la formation des gouvernements qui est impossible à trouver. Parce que chacun réclame des ministères, et le Hezbollah notamment, réclame des ministères comme les finances. Et même maintenant, depuis quelques jours, le Hezbollah réclame le ministère des Transports, c'est-à-dire le ministère qui gère l'aéroport de Beyrouth. Et il y a un veto américain là-dessus, parce que le Hezbollah gérant l'aéroport de Beyrouth, c'est l'Iran qui est à Beyrouth. Donc, vous voyez le genre de problème que pose la répartition et les ambitions du Hezbollah. Alors, en plus, évidemment, le Hezbollah a une force armée qui est supérieure à celle de l'armée libanaise. On l'a vu, son action en Syrie, où il a été essentiel pour soutenir le régime de Bachar el-Assad, mais c'est également une menace permanente le long de la frontière israélienne.
Après l'explosion sur le port de Beyrouth, Emmanuel Macron, le président français, s'est rendu à deux reprises. Il devait d'ailleurs y retourner en fin d'année, mais puisqu'il a été touché par le Covid, il n'a pas pu s'y rendre. Mais que peut faire la France face à une société et à une vie politique libanaise tellement bloquée?
Il peut faire à la fois beaucoup et pas grand-chose. Ce n'est pas le président Macron qui va débloquer le système libanais. D'un autre côté, il faut bien voir que personne ne se préoccupe vraiment de ce qui se passe au Liban. Et finalement, il n'y a qu'un pays qui se préoccupe du Liban pour lui-même, pour sa survie, c'est la France. C'est indéniable. Et s'il y a eu des critiques contre la mission d'Emmanuel Macron et contre son initiative, les critiques sont venues en France, mais au Liban, il n'y a pas eu de critiques. Au contraire, tout le monde se réclame. Et encore aujourd'hui, Nabih Berri lui-même, le président chiite du Parlement, dit tout ce qui nous reste à attendre, c'est l'initiative Macron. Donc, vous voyez, l'initiative française ne va pas bouleverser les choses, mais pour les Libanais, il y a un pays qui se préoccupe de leur sort et il n'y en a qu'un, c'est la France.
Merci Xavier Baron.
Mais je vous en prie, merci.